La semaine dernière, Tony a donc enseigné au sujet de la souveraineté de Dieu dans le chapitre 9. Et c'est vrai que là, après ce grand chapitre 8, où on avait vu que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, et nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia ! Nous pouvons sourire avec cette affirmation fantastique, vraiment... Quelle assurance, quelle joie, révélation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même toutes vos difficultés, même la maladie, même la mort d'un être cher, même les créatures diaboliques qui peuvent nous oppresser ou qui veulent nous faire tomber. Le présent, l'avenir, le futur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et là, vraiment, ce qui est intéressant quand on a lu ces versets, c'est de Paul essaye de toute son énergie intellectuelle d'essayer de faire des suppositions. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que vous êtes séparés de l'amour de Dieu? Et là, il cherche dans tous les domaines, il dit rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et puis, nous allons voir qu'à partir du chapitre 12, Paul va nous parler de vie pratique. C'est toujours son schéma. D'abord exposer les vérités bibliques de doctrine, ce qu'on appelle la doctrine, les principes spirituels, pour déboucher, pour que ça se traduise par une vie qui témoigne de ces vérités et qui appelle les autres à s'intéresser à ce que nous avons à dire. Mais c'est vrai que les chapitres 9, 10 et 11, Paul semble faire une diversion où il parle d'Israël et des non-juifs dans le plan de Dieu. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne passe pas directement à l'application pratique des vérités, du fait qu'on n'est jamais séparés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et en fait, c'est parce qu'il a, à Rome, il a un auditoire mixte. Il y a cette lettre est destinée à l'église à Rome au départ. Et il y a des chrétiens païens qui sont devenus chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'origine juive. Et donc, il veut anticiper la remarque, on pourra lui dire, oui, c'est bien beau, tu ne dis que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si nous croyons en Jésus-Christ, etc., si nous croyons en Dieu. Mais qu'en est-il des Juifs à l'époque? Les Juifs étaient allés être envahis, Jérusalem allait être détruite en l'an 70. Les Juifs n'avaient pas reconnu en Jésus-Christ leur Messie. Ils étaient sous la botte de l'occupant romain. Ils n'avaient pas l'air... Toutes les promesses que nous lisons dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament, apparemment, elles n'étaient pas vraiment... c'était pas glorieux pour le peuple juif à l'époque. Et donc, Paul veut adresser cette question. Si Dieu n'a pas respecté ses promesses pour les Juifs, qu'est-ce qui peut me garantir que rien va me séparer de son amour? Tu me dis, tu me fais une promesse, Paul, mais quand on voit les Juifs, on se dit que Dieu avait fait des promesses, et puis ces promesses ne semblent pas avoir été tenues. Donc, Paul va parler de ce peuple d'Israël. On me posait une bonne question, savoir comment est-ce qu'on peut savoir que c'était vraiment des Juifs. Les habitants d'Israël, et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des périodes d'exil, il y a eu des périodes où, malgré les efforts qu'ils faisaient de rester entre eux, de ne pas avoir de mariage avec des non-juifs, On sait que les Samaritains, notamment, étaient considérés par les Juifs du royaume du sud, de Juda, comme des inconvertis, pas des inconvertis, mais des gens qui s'étaient pollués avec des païens. Et je réfléchissais un peu à ça, et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, pour être juif, il faut avoir une mère juive, ou bien s'être converti à la foi juive. Et si vous voulez faire votre alia, même si vous n'êtes pas juif, si vous vous êtes converti, vous pouvez aller vivre en Israël et devenir citoyen. Et donc il y a deux approches. Il y a l'approche physique, la mère, l'approche du sang, par des ancêtres qui étaient juifs. Et puis aussi l'approche des croyances, l'approche de la religion. Et Dieu parle des promesses qu'il a faites au peuple juif. Et de toute façon, on sait que lui, il est capable de savoir qui a vraiment des origines juives, qui peut se réclamer de cette ethnicité, de cet arrière-plan racial, même si on sait qu'aujourd'hui, peu de personnes sont à même de prouver qu'ils descendent de telle ou telle personne. Après, il y a des noms, ce qui est remarquable, c'est que les Juifs ont du mal à savoir s'ils sont vraiment juifs, mais Hitler n'avait pas de mal à décider qui était juif, basé sur des préjugés, basé aussi sur des registres qui étaient tenus par les Juifs eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est une question intéressante, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que Israël a fait des promesses à son peuple. Il sait qui est son peuple et il va les accomplir. Il va tenir ses promesses. Alors, tout Israël ne va pas être sauvé, mais il y a ce qu'on appelle le reste d'Israël. Ceux qui conservent la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle des Juifs messianiques pour désigner ceux qui viennent à Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est une minorité parmi les Juifs. Une autre distinction très importante à faire, c'est que on confond toujours un peu juifs, israélites, israéliens. Et en fait, c'est vrai que en 1948, les juifs, en général, sont redevenus une nation localisée en un pays, le pays d'Israël. C'est déjà quelque chose d'absolument remarquable. Il n'y a aucun autre groupe humain dans l'histoire de l'humanité qui a été dispersé et qui s'est reconstitué en une entité basée sur cette histoire ethnique. Quand on parle du peuple juif, on ne parle pas nécessairement du pays d'Israël. Et souvent, les chrétiens évangéliques ont tendance à dire on est pour le peuple juif, ce qui est une bonne chose parce qu'on verra que nos racines sont dans ce peuple, mais on n'est pas là pour approuver tout ce qui est fait au nom de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est une entité non religieuse, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est une construction politique, mais parmi ce peuple, on sait qu'il y a le reste qui va être touché par Jésus et qui va être sauvé. Et c'est en cela que les promesses faites au peuple juif vont être respectées. Donc il faut faire attention un peu. Juif, ça peut même être une insulte aujourd'hui. C'est une réalité historique. C'est une réalité ethnique. Israël et le pays d'Israël est israélien. On parle aussi des Israélites, ceux qui sont qui se conforment à la religion juive ou religion des ancêtres et qui peuvent ne pas être d'ethnicité juive. Donc tout ça, c'est complexe, mais Dieu s'y retrouve très bien Et ce qui compte, c'est qu'il utilise dans sa parole, qui est la vérité, cet exemple du peuple juif pour nous montrer qu'on peut compter sur les promesses qu'il fait aux non-juifs, aux païens, à l'Église. Et c'est vrai que on raconte qu'un jour, il y avait Frédéric II, le roi de Prusse, qu'on appelait Frédéric le Grand, qui demandait à son chapelain, au prêtre qui s'occupait de sa petite chapelle, quelle était la plus grande preuve de l'inspiration divine de la Bible. Et celui-ci avait répondu avec seulement deux mots, les Juifs. Il représente aujourd'hui, si on s'en tient aux chiffres qui sont répandus, il représente moins de 0,1% de la population mondiale. Mais un fait intéressant, c'est qu'il représente aussi 15% des prix Nobel. Dans le monde de la culture, des arts, etc., ils ont une influence qui est des sciences, qui est 150 fois plus importante que si ça se basait seulement sur le nombre de personnes dans leur population. Leur influence a été remarquable dans l'histoire de l'humanité. On trouve des hommes qui ont vraiment influencé le monde, en bien, en mal. Abraham, Moïse, Jésus, Einstein, Freud, Marx. Ils ont, c'est vrai, survécu à des siècles de persécution. Ils ont été dispersés à la surface de la terre. Ils ont subi les croisades, l'inquisition espagnole, qui a chassé beaucoup de juifs vers la Corse. C'est pour ça qu'en Corse, il y a plein de noms de familles qui sont des noms d'origine juive. Les Jacobi, les Simeoni, tout ça, c'est son Simeon, Jacob. C'est intéressant l'histoire. Il ne faut pas s'en tenir à l'antisémitisme ambiant, mais de voir un peu la place importante de tous ces gens. Ils ont survécu aux rafles pendant le XXe siècle, les pogroms, les camps de concentration. Et en 1948, ils sont de retour dans leur pays d'origine. Certains parlent même du fait que peut-être la Shoah était une façon pour Dieu de permettre le retour en terre promise. Je laisse la responsabilité de ces propos à celui qui aux personnes qui ont évoqué cette idée, mais c'est intéressant de se demander. Et donc, parmi eux, la Bible nous annonce qu'il y aura un reste qui sera réconcilié avec Dieu. Il y aura le début d'une période inégalée de paix et de prospérité qu'on appelle le millénium, les mille ans. On a vu donc au chapitre 9 que Paul parlait de la souveraineté de Dieu et de l'élection d'Israël. Souveraineté, ça veut dire que Dieu est le patron, il fait ce qu'il veut. On n'aime pas tellement l'idée du souverain parce qu'on a les mauvais exemples de monarchie absolue, de despotes, de gens qui n'étaient pas animés par le souci du bien commun, du bien public. Mais quand on a un souverain qui aime son peuple, c'est très bon. Quand on a un souverain hyper puissant qui aime son peuple, on peut se réjouir de sa souveraineté. Et puis il y a la question de l'élection ou du choix de Dieu. Il y a des passages dans Romains 9 qui dit « J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü », même si on a vu que c'était relativement l'amour et la haine. Il avait par Abraham fait venir la lignée de Jésus par Isaac, le seul fils qui était reconnu par Dieu, alors que on connaissait l'autre fils d'Abraham et de la servante de Sarah, Agar, qui s'appelait Ishmaël et qui est l'ancêtre du peuple arabe. Il ne le considérait pas comme le vrai fils parce que ce n'était pas le fils de la promesse. Et tout cela nous pose question parce qu'on a l'impression que si Dieu décide, on n'a plus rien à faire. Si c'est Dieu qui m'a choisi, le fait que vous soyez là aujourd'hui avec la foi, peut-être pour la plupart d'entre vous, je l'espère, c'est que j'ai été choisi par Dieu, donc pourquoi aller partager l'évangile avec d'autres personnes? Si Dieu veut les choisir, il leur fera savoir. Et donc cette conception de l'élection, de la souveraineté, elle est difficile à réconcilier avec notre expérience du monde. Et un élément qui permet de, pour moi, une clé pour être un peu en paix avec cette notion de souveraineté, c'est de penser que Dieu connaît tout. Et il connaît tout à l'avance. Nous, on voit la vie comme un film qui se déroule. Dieu, lui, voit toute la bobine. Et dans cette connaissance à l'avance, il est capable de voir qui va se tourner vers lui, qui va se le rejeter. Et alors c'est pas, on sait qu'il y a des siècles de débats sur ces sujets, sur le fait de l'élection, du fait que Dieu fait tout, on a plus de choix, et puis de l'autre côté, au contraire, à côté de la souveraineté de Dieu, l'autre aspect, c'est la responsabilité de l'homme. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Dans le chapitre 10, après avoir parlé de la souveraineté de Dieu, du fait que c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, on va voir que nous avons notre part à jouer, nous avons notre responsabilité dans cette relation avec Dieu. Alors, on va voir on peut diviser ce chapitre 10, qu'on va essayer de voir en entier aujourd'hui, en trois grandes parties. Les premiers versets 1 à 13, c'est les raisons du rejet de Dieu par les Juifs. Les versets 14 à 17, c'est le remède à leur rejet de Dieu. Et puis finalement, 18 à 21, les résultats de leur rejet de Dieu. Lisons d'abord le chapitre 10, versets 1 à 13. C'est page 1277 dans la Bible Second 21. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez encore lever la main. Voilà. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, car que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Encore une fois, Paul exprime son amour pour son peuple. Lui savait qu'il était vraiment juif des juifs, hébreu des hébreux. Il l'a écrit dans plusieurs de ses lettres. Il avait en même temps beaucoup de regrets, de peine dans son cœur de voir que ses frères dans la foi, dans le peuple juif, pour la plupart n'étaient pas sauvés. Et c'est une remarque qu'on peut faire, c'est que pour être vraiment efficace ou porter du fruit dans le témoignage, il faut qu'il y ait vraiment un amour pour les gens qui nous entourent. On peut faire de l'évangélisation parce que le pasteur dit « Venez à tel endroit, à tel, pour parler à des personnes dans la rue ». On peut le faire, mais si on n'est pas animé par un profond amour pour ces personnes, un profond désir de les voir réaliser leur situation et de savoir qu'on a les paroles de salut, alors on peut faire plein de choses, mais ce sera en vain parce qu'il n'y aura pas cette profondeur, cette réalité du désir. On disait, on a répété plusieurs fois, les gens se moquent de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas que vous ne vous moquez pas d'eux. Autrement dit, les gens vont vous écouter s'ils voient que vous vous intéressez vraiment à eux. Et si vous n'avez pas ce fardeau des âmes, si vous en fichez que ces gens qui ont l'air en pleine forme sur la promenade des Anglais, en ce beau jour de février 2018, au soleil, avec leurs manteaux tous noirs, ça va rien changer. Par contre, si vous vous dites comment est-ce qu'on peut les toucher, comment est-ce que peut-être un petit traité ou peut-être une parole ou peut-être les inviter ou peut-être leur donner une bouteille d'eau avec un verset biblique, si vous n'avez pas s'ils ne sentent pas que vous avez vraiment à cœur leur destinée, leur personne, ça va rien faire. Et ce fardeau pour les âmes, vous pouvez le demander aussi à Dieu. Quand je suis venu des États-Unis avec le désir de partager l'Évangile et que je me suis retrouvé en France avec ces Français arrogants qui pensent qu'ils connaissent mieux le monde que tous les autres, que leur système politique est le plus génial au monde, qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui ont inventé les droits de l'homme, même s'ils laissent mourir les gens dans les rues, etc. Je dois dire que il a fallu que je prie pour que le Seigneur me donne un amour. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que ce qui compte, c'est pas d'avoir un amour pour une carte, ça peut commencer là, mais après, c'est tellement plus facile d'aimer les gens un à un. Quand on voit on parle des Français globalement, ils ont une culture qui est riche, ils ont une bonne nourriture, mais après il faut avoir cette relation. Et Paul, on le sentait, il priait pour eux. Est-ce que nous prions pour que nos familles, les membres de nos familles, nos voisins, nos collègues, nos concitoyens, soit sauvé. Si l'Église en France, si petite soit-elle, se mettait vraiment à prier sérieusement pour ça, je crois qu'on verrait des choses que si on vous les disait maintenant, vous ne les croiriez pas, comme dit la parole. Ils avaient du zèle, ils n'avaient pas vu leur réalité, leur besoin de salut. Et pour une autre expression que j'aime bien, pour dire que quand on veut témoigner, que ce soit auprès d'un membre de la famille ou d'une personne dans la rue, d'un collègue, avant de parler de Dieu à une personne, il faut parler à Dieu de cette personne. Il faut prier pour les personnes avec qui vous avez partagé la foi. On a eu des moments à Nice, dans ces 20 dernières années, où il y a eu des évangélisations avec des grands évangélistes comme Billy Graham ou Louis Palau, Et il y avait une campagne où les églises se réunissaient pour prier pour la ville. On faisait même des listes d'une dizaine de personnes, chaque personne qui assistait à ces réunions, pour prier pour ces personnes. Et je vous assure que le climat spirituel avait changé à Nice. Je me retrouvais à parler de Christ avec quelqu'un, un commerçant avec qui j'avais sympathisé dans un restaurant, et je remarquais qu'il y avait quelqu'un qui tendait l'oreille pour écouter. Et une personne m'a même dit à une fois, « Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous disiez, j'aimerais en savoir plus. » Prions pour nos familles, pour les gens qui nous entourent. Ils avaient du zèle. Le zèle, c'est de l'ardeur, c'est être bouillant, c'est mieux qu'on pense que c'est... L'opposé, c'est la froideur. Et puis au milieu, il y a la tiédeur. Et moi, je me disais, c'est pas bien d'être froid vis-à-vis des choses spirituelles. Sûr, être zélé, mais il faut peut-être pas être trop fanatique. Le milieu, ça semble être la tiédeur, ça semble... Jusqu'à ce que je lise les paroles de Jésus qui dit « Tu n'as pas de zèle, parce que tu es ni froid ni chaud, mais que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » C'est pas très... Excusez-moi, c'est pas moi qui m'excuser, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ces paroles, parce qu'il veut nous frapper, nous montrer que la tiédeur en matière spirituelle, c'est quelque chose qui est détestable. Ils avaient ce zèle sans connaissance véritable des choses de Dieu. Ils se référaient sans doute au fait qu'ils appartenaient à ce peuple, même s'ils n'avaient pas 100% de gènes descendants d'Abraham. Ils pensaient que parce qu'ils appartenaient à la communauté, ils n'avaient pas de soucis à se faire. Paul lui-même dit qu'il avait à un moment un zèle excessif. Il disait, si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Il est assez égocentrique là. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, il donnait son pédigré pour ceux qui auraient dit, oui, tu n'es pas vraiment juif. Quant à la loi, pharisien, c'est-à-dire qu'il était pinailleur, qu'il appliquait au mieux tous les commandements de la loi, non seulement les 10 commandements, les 600, etc., 50 qui sont définis dans la Torah, mais en même temps, il y avait les commentaires de la Torah et puis les commentaires du commentaire, la Mishnah et le Talmud, et ils essayaient de suivre toutes ces lois, tous ces règlements à la lettre. Et quant au zèle, il était persécuteur de l'Église. Il était rouge sang. Il avait de l'énergie, de la chaleur, du zèle. Et quant à la justice légale, suivre la loi, il était, il le dit, irréprochable. Quelqu'un a dit, avoir du zèle sans connaissance, c'est être comme une locomotive lancé à pleine puissance sur la mauvaise voie. On y va vite, mais on va dans le mur. Ça, c'est le zèle sans connaissance. Ils étaient orgueilleux, satisfaits de leur propre justice, de leur vertu. En ignorant la justice de Dieu, ils ne cherchaient pas... Ils cherchaient plutôt à établir la leur propre. Ils se faisaient des règles d'après ce qu'ils comprenaient de la loi, ils en ajoutaient sans doute d'autres, et puis ils se disaient qu'ils étaient vraiment des gens bien. La propre justice, c'est quelque chose qui nous guette tous. Ésaïe, le prophète, disait « Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Tout ce que nous faisons dans nos propres efforts, même si, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, il peut y avoir des bonnes intentions, le fait que ce soit nous qui les fassions, et comme nous sommes des pécheurs par nature, ces bonnes œuvres, elles sont comme des vêtements pollués. Et le mot hébreu est très fort. Ça parle du linge pour les règles des femmes. C'est très humiliant pour l'homme orgueilleux, les hommes orgueilleux que nous sommes tous, les hommes et les femmes orgueilleuses que nous sommes tous. Mais notre propre justice, nos propres œuvres, elles ne tiennent pas la route devant Dieu. On raconte qu'il y avait un écrivain, un pasteur irlandais, Robert Murray McShane, un grand homme de Dieu, qui passait des tracts à la sortie de l'église, et une femme très élégante qui s'est offusquée, qui a dit « Mais monsieur, vous ne savez pas qui je suis ?» Sans doute elle pensait qu'il aurait dû savoir que c'était la femme du plus grand donateur de l'église et qu'elle n'avait pas besoin de recevoir ses tracts. Et il lui a répondu « Madame, un jour de jugement arrive, et en ce jour, qui vous êtes importera peu. » Ce n'est pas notre naissance, notre statut social, c'est notre relation avec Dieu. Le reste des versets qu'on a lus jusqu'au verset 13, ça parle du fait qu'ils ne comprenaient pas leur propre loi. Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Qu'est-ce que ça veut dire, fin de la loi? Est-ce que ça veut dire que la loi est démodée, qu'elle n'est plus? Non, ça veut dire qu'il l'a accomplie et qu'on n'a plus besoin de se fonder sur une obéissance légaliste des lois pour essayer de plaire à Dieu. La loi, c'est ce qu'on appelle, Paul appelle par ailleurs un pédagogue, un tuteur, quelque chose qui est destiné à nous mener à Christ. Un pédagogue, c'est le mot qu'on utiliserait aujourd'hui pour dire le « the youth pastor », celui qui enseigne les jeunes. Quelque chose qui est fait avec simplicité. Et la loi, son idée, c'est pas nous permettre de gravir les échelons pour arriver par nos mérites à plaire à Dieu, c'est pour nous montrer qu'on peut pas y arriver tout seul. Paul cite Moïse, l'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Ça, c'était la loi. Romains 8, on a vu, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu en envoyait. Il n'y a rien de mal avec la loi. La loi est parfaite. Elle est digne. Mais la chair, notre vieille nature pécheresse, la rend sans force. On n'est pas capable de respecter nos bonnes résolutions, à plus forte raison la loi donnée par Dieu dans sa parole. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Jacques va très loin et dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Si vous voulez obtenir l'acceptation divine par vos propres mérites, sachez qu'il ne s'agit pas de vivre 90% du temps sans violer les 10 commandements. Il pourrait vous arriver une seule fois, quand vous arrivez à l'âge de 99 ans, vous retournez et vous dites « Dis donc, j'ai été fort. » Pof, orgueil, poum, c'est fini. La bulle explose. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tout. C'est pas je choisis de faire ça, puis dans d'autres domaines, je dis Dieu, regarde pas. Non. Et dans Galates, il dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. La justice de la loi et la justice de la foi sont deux expressions qu'il utilise. La justice de la loi, c'est celle qui dépend de ce que je peux arriver à faire. Ça dépend de moi pour plaire à Dieu. La justice de la foi, ça dépend de ce que Christ a fait pour moi. Ça dépend du Christ et ça, c'est parfait, ça marche. Je vous laisse choisir. Est-ce que vous voulez essayer d'accomplir une relation parfaite avec Dieu, avec votre propre justice ou avec celle que Jésus-Christ a accomplie à la croix? C'est ça, pour ça qu'il est la fin de la loi. Pour tous ceux qui croient, ils reçoivent cette justice. Et puis il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est qu'un enfant peut le comprendre. En ce moment, il y a des enfants qui sont peut-être plus éclairés que certains d'entre nous sur la vérité divine en ce moment. Savoir qu'on est pécheurs, ils sont prêts à reconnaître qu'ils font des bêtises, qu'ils se font gronder, corriger. Et puis, d'ailleurs, si vous n'avez jamais travaillé avec les enfants, je vous invite à envisager de le faire, à voir avec ceux qui s'occupent de l'école du dimanche. Je suis toujours béni en particulier de voir la profondeur, la simplicité, mais la profondeur des prières qui sont les moniteurs les inscrivent pour pouvoir permettre aux enfants de voir que ces prières ont été réalisées, exaucées. Et on voit des fois des prières qui vous touchent le cœur au plus profond. Simple, mais l'Évangile, c'est quelque chose de simple. Certains, ce que Paul nous dit là, il n'y a pas besoin de faire d'alpinisme spirituel. Les gens ont l'impression que plus c'est compliqué, plus ça doit être vrai. Et que pour vraiment être en relation avec Dieu, je dois apprendre le grec, l'hébreu, un peu d'araméen ne fera pas de mal, je dois devenir spécialiste en histoire, en archéologie, etc., etc. Et que là, je vais arriver à cette connaissance supérieure à celle des autres. Non. Qui montera au ciel, faire de l'alpinisme spirituel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, il n'y a pas besoin de faire de spéléologie non plus. C'est là. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est important d'être simple dans votre relation avec Dieu. Vous pouvez lui dire quand ça va pas. Rouspétez quand il y a des choses que vous trouvez bizarres ou difficiles à comprendre. L'élection, la souveraineté de Dieu, mais en même temps la responsabilité de l'homme. On va en parler rapidement. Et puis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, comme c'est traduit dans la seconde 21, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est probablement un des meilleurs versets pour savoir comment être sauvé des conséquences terribles de notre péché. Confesser, ça veut simplement dire être d'accord avec quelqu'un. Sous-entendu Dieu, c'est d'être d'accord avec Dieu que Jésus-Christ est le Seigneur. Et à ce moment-là, il va devenir votre sauveur. Cette déclaration, en fait, elle est simple, mais elle ne peut pas se faire sans l'action du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. On ne peut pas maudire Jésus si on est inspiré, habité par l'Esprit de Dieu. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'aurez jamais, jamais, jamais honte d'avoir cru en lui. On ne va pas demander pour qui vous avez voté à ces élections ou précédentes ou celles d'avant, mais il y a des chances que vous n'admettriez pas le candidat pour lequel vous avez voté parce qu'il vous a il vous a inspiré de la honte. Vous dites, qu'est-ce que j'ai été faire pour voter pour un point de suspension. Avec Jésus, quiconque croit en lui ne sera point confus. Joël 2, 32 ou 3, 5, suivant là, si c'est une version française ou anglaise. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec, que vous soyez juif, certifié juif ou pas certifié juif, païen ou pas certifié païen, peu importe, ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui font appel à lui. Il n'y a plus de différence en ce qui concerne le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, vous allez dire, mais ça marche pas avec la souveraineté de Dieu ou avec l'élection. Il dit que si on invoque, on est sauvé. Si on fait appel à Dieu, on est sauvé. Et le chapitre 9 nous disait que Dieu choisissait qu'il était souverain. Et c'est vrai que pour nos esprits cartésiens, ou qui se voudraient cartésiens, qui se voudraient logiques, on a du mal à réconcilier ces deux choses. Il y a un commentateur anglo-saxon, Ironside, qui a expliqué que quand on entrera au paradis, alors il reprend l'imagerie traditionnelle avec une grande porte, un grand portail. D'un côté, en venant de l'extérieur, il y aura marqué « Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé ». Ah ben, tout le monde peut venir. Et puis il dit à l'intérieur, quand on se retournera de l'autre côté du portail, il y aura un signe qui dira « Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi ». Ça, c'est aussi une vérité biblique, c'est Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors, on peut décider de résoudre cette dualité, et on peut devenir fou en essayant de faire ça. Ou alors, on peut l'accepter et être au bénéfice de ce pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui se rouspètent que ce n'est pas juste, que Dieu ne les a pas choisis, vous pouvez leur dire, mais si tu peux maintenant choisir, tu peux invoquer le nom de l'Éternel et tu as la promesse qu'il va te recevoir. Ah non, je ne veux pas ça. Ah ben alors, tu ne veux pas de Dieu. Et souvent, on fait de ces problèmes de prédestination, d'élection, de souveraineté, de responsabilité de l'homme, comme des choses qu'il faut résoudre avant de pouvoir vivre une foi chrétienne. Alors, il n'y a aucun problème à réfléchir, à essayer de voir ce que dit la Bible, mais il y a des vérités comme ça qui sont décrites dans la Bible qu'on n'arrive pas à réconcilier. Mais si elles sont clairement définies, tout ce que nous avons à faire, c'est les croire vraies toutes les deux. Quelqu'un disait, la Trinité, un Dieu unique en trois personnes, c'est pas facile à comprendre. Vous êtes d'accord? Alors on peut prendre des images, ben un œuf, il a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune, sauf que avec la Trinité, on ne fait pas des omelettes. Ou il y a l'eau qui est sous forme de vapeur, là il y a de l'eau là, en vapeur. Et puis il y a l'eau liquide quand elle se condense sur la vitre froide. Et puis si c'est près du frigo, ici fermement, il fait froid, ça devient solide. Donc il y a un même élément en trois. Tout ça, c'est quelqu'un. Je crois que la meilleure remarque, c'est celle que disait quelqu'un. Disait si quelqu'un arrive à comprendre parfaitement la Trinité, il faudra que la Trinité fasse la place à une quatrième personne. Autrement dit, il faut être Dieu pour comprendre les choses de Dieu qui nous dépassent, mais qui sont clairement révélées dans sa parole. Et donc le remède à leur rejet de Dieu, c'est, on va lire, on n'a plus trop de temps. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? C'est le verset 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendrons-nous parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On prendra le temps de revenir un peu sur ces versets tellement importants, mais j'aime bien la logique de Paul, et qui nous dit qu'en fait, si on veut avoir de beaux pieds, pas besoin d'aller chez le pédicure, il faut annoncer la bonne nouvelle. Et c'est curieux parce que c'est pas, à moins d'être un peu bizarre, et ça existe, normalement les pieds, c'est pas la partie de l'anatomie de l'être aimé qu'on valorise le plus. J'espère que si je vous demande une photo de votre épouse ou de votre mari, vous n'allez pas montrer une photo dans votre portefeuille qui montre ses pieds. Les pieds sont importants, mais le mot « beau », en fait, c'est une traduction qui serait mieux venue d'être dire « au bon moment ». Quelque chose qui arrive au bon moment. Vous partez en vacances et les impôts vous remboursent une somme d'argent que vous avez payé en trop. Ça arrive des fois, il paraît, comme au Monopoly. Ça arrive au bon moment, c'est beau. Et ce qui compte, c'est d'être là au bon moment pour annoncer la bonne nouvelle. Et Paul, avec sa logique cartésienne avant la lettre, il prend à l'envers, j'aime bien reprendre, à l'endroit, l'idée que les conditions nécessaires au salut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit envoyé par Dieu. Un prédicateur est envoyé par Dieu. Alors le prédicateur, c'est pas seulement le pasteur ou le missionnaire, ça peut être vous qui allez parler de Dieu à votre tante, à votre voisin, à votre collègue. Et c'est bien d'être là, mais il faut proclamer le message. Il faut le dire. Certains sont des témoins secrets. Je suis gentil avec mes voisins. Sans doute, ils vont avoir envie de connaître Jésus-Christ. Si vous leur avez jamais parlé de Jésus-Christ, ils penseront peut-être que c'est quelqu'un de bien sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il faut que le message soit proclamé. c'est bien de vivre le message. Parce que autant le message est important, autant le messager va compter. Si vous vous comportez comme un sagouin et que vous annoncez l'amour de Dieu, les gens ne vont pas vous écouter. Il faut que le message soit écouté et puis que les gens mettent leur foi dans le message. C'est Dieu qui envoie les hommes. Il faut envoyer pour prêcher, pour qu'on entende, qu'on croit et qu'on invoque. Et ça, c'est le principe du salut. Et tous dans votre vie, vous pouvez vous demander qui a été envoyé vers moi ? Quelle est la première personne ? C'est peut-être, vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne. Dieu soit loué pour vous. Ne considérez pas ça comme quelque chose à regretter, bien au contraire. Mais quelqu'un vous a parlé de Dieu. Quelqu'un a parlé, vous avez entendu, vous avez cru et vous avez invoqué. Alléluia. C'est Dieu qui envoie les hommes. Dieu aurait pu choisir d'annoncer le message dans le ciel. On voit quelquefois des petits avions avec un message derrière. Hippodrome de Cannes du 15 au 20 février, je ne sais pas quoi, mais... Aujourd'hui, un auteur chrétien français, Richard Dolière, a dit « Aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre bouche que la nôtre. » Quelle responsabilité ! Comprenons-nous que lorsque nous nous taisons, c'est comme si nous fermions la bouche de Dieu, comme si nous imposions à Dieu de se taire. Waouh ! Quand je ne partage pas l'espoir que j'ai en Christ, la certitude que j'ai en Christ, c'est comme si je disais à Dieu, tais-toi. Et les derniers versets, on va les lire. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris ? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation, je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne demandaient rien, pardon. Mais au sujet d'Israël, il dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Ça, c'est une idée assez bizarre, assez particulière. C'est que Dieu a décidé de se tourner vers les païens, de se révéler aux païens pour que les juifs en deviennent jaloux. Et lorsque vous parlez à un juif de votre relation avec Christ, de la richesse, du bonheur, de l'espoir, de comment ça aide votre vie, et puis eux qui ont peut-être le respect des traditions et des rituels, ils vont dire, mais lui, il n'est même pas juif, il connaît mon Dieu, parlant de Dieu le Père, il a une relation... Ça les rend jaloux, ils veulent en savoir plus. C'est ce que nous dit Paul ici, on y reviendra. Mais on voit le cœur de Dieu pour son peuple. Il tend tout le jour, à chaque instant, vers un peuple rebelle et contredisant. Tout le jour, c'est 4000 ans. C'est le jour du salut. L'âge de la grâce, c'est l'âge dans la grâce dans lequel nous vivons. Et donc, on peut demander souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme dans son choix, dans son annonce. J'aime bien résumer ce passage en disant le chrétien, d'abord, le chrétien est responsable de prier et de faire part de sa foi avec le non-chrétien. Prions pour les autres, parlons-leur de Jésus-Christ. Le non-chrétien, lui, est responsable d'accepter ou de rejeter le don divin gratuit du salut. On ne peut pas le forcer sur les gens, c'est à eux, c'est leur responsabilité. Et le Seigneur, lui, il est responsable de sauver quiconque vient à lui par le Christ et par la foi seulement. Alléluia. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous êtes peut-être posées dans les groupes de maison, en regardant ce passage. On va se lever et on va prier, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole et merci de ce que, lorsque nous avons du mal à réconcilier des affirmations qui sont trouvées dans ta parole, Seigneur, nous pouvons savoir que même si elles nous paraissent contradictoires, elles sont vraies et que nous devons agir sur la foi de ces contradictions, les recevoir, savoir que tu es souverain, qu'on ne peut pas te forcer la main, mais en même temps, Seigneur, que tu as promis que si nous venons à toi, tu nous acceptes et tu nous sauves. Seigneur, c'est notre prière pour tous ceux qui nous entourent, dans ce quartier, dans nos familles, au travail, Seigneur, pour que tu nous permettes d'être responsables de nos responsabilités, de prier pour ceux qui nous entourent, de leur faire part de notre foi avec des mots, même si c'est vrai qu'il est important de partager avec nos actes pour que le messager soit entendu aussi. Seigneur, on prie pour que tu prépares une grande moisson dans cette ville, dans cette région, dans ce pays de France. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que tu vas recevoir tous ceux qui viennent à toi au nom de Jésus-Christ, par la foi. Sois béni. Amen.